Les colloques du Collège de France.
Bonjour et bienvenue de nouveau dans l'amphithéâtre Navarre, où il essaye de faire un petit peu plus frais qu'à l'extérieur. Comme je disais, le Collège de France est connu pour être bien chauffé en hiver et frais en été, donc c'est un très bon refuge climatique. Après les travaux de ce matin consacrés à l'espace public saisi par le numérique, nous avons cet après-midi une première session consacrée à la gouvernance numérique. Nous commençons par la communication de Stéphane Lelay, qui est sociologue, habilité à diriger des recherches, spécialisé sur les transformations et transformations des organisations du travail et leurs effets sur la santé physique et mentale. Depuis près de 30 ans, il s'intéresse en particulier au processus de... alors là, mon imprimante m'a joué des tours. Il me manque
précarisation.
Je vais peut-être vous laisser compléter parce que là, enfin, il me manque une ligne. Désolé.
Depuis une trentaine d'années, parce que je suis un vieux sociologue, je m'intéresse au processus de précarisation qui affecte les classes populaires.
Parmi vos publications les plus récentes, il y a donc Jouer. Le travail à l'ère du management distractif, publié au CNRS Édition en 2023. Et vous êtes le co-auteur avec Fabien Lemozy de Plateforme au pluriel, sous-titre La colonisation du travail et de la démocratie aux éditions de l'Atelier en 2025. Alors, désolé pour cette... je crois que les imprimantes ont également très chaud. À vous la parole, Stéphane.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Il est 13h59. Tout le monde, 14h. Tout le monde vient de sortir de table, a priori, ce qui fait que c'est l'heure un peu dangereuse pour n'importe quel orateur. C'est celle où, a priori, vous allez tous et toutes piquer du nerf à un moment donné. J'ai la lourde tâche de faire en sorte que cela n'arrive pas, de manière à ce que ma collègue ensuite puisse dérouler son topo de façon tout à fait fluide et efficace. Ce qui fait que si de temps en temps je pousse un cri strident, c'est pas parce que j'ai peur, même si j'ai un peu peur, c'est parce que je ferai en sorte de réveiller ceux que je vois ou celles que je vois déjà en train de dormir là-bas. Oh, sinon, elles ne se réveillent pas. Ok. Tout ceci en 25 minutes. Alors, merci beaucoup Anne Cheng et Alain Supio pour votre invitation à participer à ce colloque. D'abord, en raison de l'opportunité que représente pour un non-statutaire comme moi d'exposer son travail dans un lieu aussi chargé d'histoire que le Collège de France. Ensuite, parce que le sujet qui est traité aujourd'hui me semble particulièrement important à l'heure où, dans de nombreux pays, les forces politiques antidémocratiques unissent leurs efforts avec les mastodontes de la tech pour renverser l'état de droit et accentuer leur domination sur des populations vulnérables. Même si certains auteurs comme Dario Azzeleni et ses collègues considèrent qu'il est accordé une importance démesurée au phénomène de plateformisation du capitalisme, je ne pense pas que la plateformisation du travail soit marginale. Si par plateformisation, on entend installation et usage durable d'infrastructures et de données numériques visant à organiser les rapports, ici les rapports de travail, entre différents agents sociaux. Ce processus encore récent s'inscrit dans trois processus interdépendants de longue durée défavorables aux travailleurs, puis en renforce les tendances délétères du fait de la technologie algorithmique. D'abord l'exploitation économique, ensuite l'aliénation socio-économique et mentale, et enfin la précarisation sociale. Comme je l'avais montré il y a presque 30 ans lors de mes premiers travaux de recherche consacrés à la souffrance au sein des classes populaires déclassées, la précarisation du travail et de l'emploi est incompréhensible sans prendre en compte le processus d'atomisation sociale qui accompagne la casse des collectifs de travail et la dégradation de la santé mentale et physique des individus. Or, je pense qu'actuellement, le processus d'atomisation sociale intrinsèque à la précarisation renforce l'exploitation et l'aliénation dans les mondes du travail. C'est donc sur les liens entretenus entre plateformisation du travail et atomisation sociale que je vais centrer ma communication. Pour reprendre une expression de ce matin, c'est à la mâchoire subjective des plateformes que je vais m'intéresser ici. La plateformisation du travail m'apparaît comme un processus économique, social et politique d'une ampleur inédite en raison de la puissance technologique qui la rend possible. Cette puissance permet d'accroître la domination du capitalisme à un degré encore inconnu, bénéficiant d'un soutien politique massif et de mouvements capitalistiques conséquents et répétés. Ainsi, l'évolution du secteur de la livraison de plats préparés montre que l'intérêt pour le modèle plateforme ne réside pas strictement du côté de la nourriture, du côté de la livraison de nourriture, mais plus largement, premièrement, dans sa capacité à redessiner les frontières des activités logistiques et des activités culinaires. Deuxièmement, dans sa capacité à attaquer le modèle traditionnel employeur-salarié, je parle pour la France, pour se dégager des responsabilités juridiques que cela implique. Troisièmement, dans ses potentialités de captation de grandes quantités de données, soit pour une utilisation directe en créant des services sur mesure pour les consommateurs, le meilleur hamburger de la Terre, soit de manière indirecte par la revente à d'autres entreprises utilisatrices. Et enfin, de manière sans doute plus décisive, dans ses visées politiques de structuration et d'usage légitime de l'espace public urbain. La présence durable des plateformes comme entité économique et organisationnelle à part entière et comme dispositif socio-technique implanté dans diverses institutions privées et publiques pose donc d'importantes questions scientifiques, mais également politiques, puisque de nombreuses personnes sont concernées par ces transformations rapides. Et donc, à partir de l'expérience vécue des livreurs de plateformes, je souhaite poursuivre ici une réflexion engagée de longue date à propos des processus sociaux et psychiques qui freinent ou au contraire alimentent la construction d'une démocratie sociale. Pour le dire de manière ramassée, je propose d'analyser en quoi l'expérience vécue des livreurs de plateformes peut nous renseigner sur les contours et les potentialités d'un espace public oppositionnel susceptible de contrebalancer les tendances politiques autoritaires favorisées par les plateformes de travail qui n'ont que faire du travail bien fait, qui n'ont que faire de l'éthique, qui n'ont que faire de la délibération collective pour mettre en discussion ce qui compte vraiment. Tout d'abord, il me faut expliquer rapidement en quoi la plateformisation du travail et l'atomisation des galériens de l'asphalte ont partie liée. Mais d'abord, peut-être, pourquoi parler de galériens de l'asphalte et pas forçats de la route, comme l'écrivait Albert Londres en 1924 à propos des coureurs cyclistes, ou forçats du bitume, comme le disent actuellement les militants du CLAP, le collectif de livreurs autonomes de plateforme. Je ne suis pas historien, donc je ne ferai pas trop long sur ce point, mais je rappellerai juste que ce qu'on appelle le corps des galériens, au temps de la monarchie absolue française, ne formait pas une population homogène, notamment du point de vue des statuts. Se côtoyaient en effet sur les vaisseaux des individus esclaves, qu'on appelait les Turcs, alors qu'ils n'étaient pas nécessairement Turcs, des forçats qui purgeaient leur peine de prison, et des engagés volontaires sous contrat, qu'on appelait les bénévoglises. Alors, je suis désolé pour ma prononciation du latin, mais je pense que ça se prononce bénévoglise. Ces derniers, exemptés de la chaîne et du fouet, étaient souvent contraints d'exercer cette activité faiblement rémunérée pour survivre. Toute comparaison avec les livreurs de plateforme n'est donc pas totalement gratuite, puisque tout comme les bénévoglises avant eux, ces travailleurs renoncent à une partie de leur liberté en s'engageant dans une astreinte perpétuelle dont bénéficie non le roi de France, mais la plateforme. Cette précision apportée, il me faut maintenant insister sur le fait que l'atomisation des travailleurs précarisés, observable depuis longtemps dans de nombreuses entreprises et institutions publiques, s'est trouvée renforcée avec l'arrivée des plateformes sur le marché de la livraison. Ceci se perçoit à différents niveaux. Premièrement, une atomisation statutaire de travailleurs à la tâche, censément indépendants, ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs qui contractualisent sous forme de contrats commerciaux et non pas de contrats salariaux. Deuxièmement, une atomisation technologique qui organise une sorte de tête-à-tête en temps réel, permanent et désincarné entre le livreur et les dispositifs du management algorithmique. Troisièmement, une atomisation spatiale des livreurs, puisque les lieux de rencontre sont soit inexistants, soit provisoires, soit sujets à une conquête territoriale plus ou moins agonistique. Quatrièmement, une atomisation identitaire enracinée dans des dynamiques genrées, racisées, générationnelles et culturelles. On a d'un côté les vrais riders et de l'autre côté les livreurs ou les faux coursiers. Et enfin, cinquièmement, une atomisation affective et émotionnelle liée aux tensions agonistiques alimentées par la concurrence interindividuelle. Ceci se caractérise au niveau intrapsychique par un phénomène de répression pulsionnelle destiné à s'empêcher de penser de façon à pouvoir se lancer à corps perdu sur les routes, ce qui conduit les livreurs à, je reprends leur vocabulaire, forcer, c'est-à-dire à abîmer leur corps et malmener leur subjectivité. À cela s'ajoute, au niveau intersubjectif, une rupture du lien avec autrui d'une intensité variable, allant de l'indifférence jusqu'à la violence hétérocentrée, puisqu'il y a des phénomènes de bagarre de manière régulière dans l'espace public. Le management algorithmique des plateformes et le management transverse réalisé par les clients au nom d'une économie de la flemme encouragent ainsi la concurrence de tous contre tous pour l'accès aux rémunérations, l'accès aux livraisons et l'accès aux bonnes évaluations, tout en alimentant un turnover important en raison des différentes formes de pénibilité du métier. L'évanescence organisationnelle de dispositifs numériques difficilement saisissables, les fortes variations des effectifs de livreurs et les dynamiques centrifuges caractéristiques de l'atomisation sociale constituent par ailleurs autant d'éléments qui entravent la délibération autour des enjeux d'organisation du travail et de règles de métier, discussion constitutive d'une possible démocratisation de notre société amorcée dans le cadre professionnel. On parle beaucoup en ce moment, je ne sais pas si vous avez suivi, sans doute que oui, de la démocratie au travail, de la démocratie du travail et comment cela pourrait, si on arrivait à la mettre en œuvre, réinsuffler des discussions utiles au niveau démocratique pris un peu plus globalement. Pourtant, émergent régulièrement depuis une dizaine d'années des mobilisations improbables, donc ça c'est une formulation de Pierre Bourdieu, parmi les galériens de l'asphalte. Le deuxième moment de cette communication va donc me conduire à me demander si les galériens de l'asphalte sont ou non en route vers un espace public oppositionnel. Les livreurs de plateforme travaillent des heures durant pour approvisionner des clients nombreux, pressés et insensibilisés aux effets sociaux et psychiques de leur comportement consommatoire et du fétichisme de la marchandise qui les fonde. Facteurs humains de la chaîne algorithmique qui tourne sans cesse et groupe social dominé par les logiques de l'échange marchand, les galériens plateformisés de l'asphalte partagent donc des propriétés sociales communes, mais soumises à des tensions qui rendent difficile l'émergence d'une vision sociale et politique partagée. Bon nombre de recherches de terrain, s'intéressant aux mobilisations collectives, montrent que celles-ci peuvent initialement être entravées par des dynamiques centrifuges à la fois sociales et subjectives. Ce que j'ai appelé ailleurs un phénomène de démobilisation raisonnée se comprend pour le cas spécifique des livreurs de plateforme à l'aune de sept dimensions principales. La première dimension concerne les propriétés sociales des livreurs. Ils sont majoritairement jeunes, ils sont précarisés et souvent en provenance de pays étrangers, ce qui ne facilite pas, bien évidemment, un travail de cohésion politique, au moins initialement. Deuxièmement, leur disposition sociale vis-à-vis du travail. Il existe un certain rejet du salariat et une valorisation de la position d'entrepreneur indépendant. Ça a été mentionné ce matin à propos de l'auto-entrepreneuriat et de la pensée cybernétique. Troisièmement, leur disposition sociale vis-à-vis de l'engagement militant. Ils sont peu familiarisés avec le champ politique et l'espace des mouvements sociaux, et il existe par ailleurs un rejet des syndicats ou des doutes sur leur capacité organisatrice. Quatrièmement, le coût économique de l'engagement militant pour des micro-entrepreneurs, avec la peur qui l'accompagne de ne pas générer un chiffre d'affaires suffisant pour survivre. Cinquièmement, une disposition à privilégier ses intérêts individuels et à déléguer le travail revendicatif à d'autres, ce qu'on appelle le free riding. Parce que là, pour le coup, ça porte bien son nom avec des livreurs à vélo. Disposition plus facilement agissante s'il n'existe pas d'interconnaissance préalable entre livreurs et si certains d'entre eux n'enclenchent pas la dynamique contestataire. Sixièmement, la pression psychique de l'engagement contestataire, avec notamment la peur des représailles policières pour les sans-papiers, qui est extrêmement présente, on l'a vu durant les enquêtes. Et enfin, septièmement, l'action des stratégies de défense individuelle contre la souffrance, qui sont mises en œuvre par les livreurs. Et donc, bon là, il faudrait que je rentre dans les détails, ce que je ne pourrais pas faire, mais ce que vous trouverez en détaillé dans le livre plateforme, justement. Donc, l'auto-accélération, c'est-à-dire se lancer à corps perdu dans les activités de roulage, de manière à arrêter de penser à ce qu'on fait. On arrête de penser à ce qu'on fait, on arrête de penser à ce qui nous fait souffrir, mais en même temps d'arrêter la pensée sur le travail, on arrête aussi la pensée sur ce qui pourrait nous permettre de transformer le travail, et donc potentiellement via l'engagement collectif. En dépit de ces éléments susceptibles d'empêcher une mobilisation collective, de nombreux indices empiriques renseignés ces 10 dernières années montrent qu'existent des moments où s'exprime dans un espace public oppositionnel ce que le sociologue Oscar Nicht appelle la subjectivité rebelle. Ce mélange d'obstination, d'authenticité et de négativité des acteurs qui résiste à la marche triomphale de l'histoire des vainqueurs. C'est une citation. Comment comprendre ces contradictions apparentes ? Comme le souligne le sociologue Lilian Mathieu, je cite, « une mobilisation prend grâce à la connexion d'unités contestataires auparavant déconnectées ». Je termine, fin de la citation. « Grâce au travail réalisé par des courtiers pour tisser et entretenir des relations réciproques, pour identifier et définir des enjeux et actions communs permettant de constituer une coalition, et ce, en dépit d'identités et d'intérêts distincts. Pour les cas des livreurs de plateforme, les enquêtes de terrain permettent de repérer au moins 5 grands groupes d'agents ayant contribué aux coalitions militantes qui ont mis un coup de frein à la domination tranquillement assurée des plateformes. En premier lieu, on trouve des collectifs de livreurs constitués localement, puis nationalement, avant de se coaliser au niveau international. Deuxièmement, les organisations syndicales, discrètes lors de l'arrivée des plateformes, en raison de la nouveauté du modèle et du statut juridique douteux de l'emploi qui l'accompagne, elles ont rapidement syndiqué des livreurs, puis soutenu leur action dans de nombreux pays. Troisième groupe d'agents, les partis politiques de gauche. Ouais, parce que les partis politiques de droite, globalement, ça les intéresse pas, voire ils vont lutter pour éviter qu'il y ait des coalitions qui se fassent. Confère ce qui s'est passé au Sénat il y a un an et demi. Au niveau local, national ou européen, des élus ont aidé les collectifs de livreurs à se stabiliser, par exemple en soutenant la création de lieux dédiés aux livreurs, ou pour les aider à s'engager dans le processus de négociation avec les plateformes, de manière à prendre le relais des formes d'action plus conflictuelles. D'autres élus ont mené un travail législatif pour réguler le travail de plateforme, à l'image des élus communistes et insoumis au Parlement français, ou des élus insoumis au Parlement européen. Quatrième groupe d'agents qui a aidé à ces coalitions, des organisations non gouvernementales, comme par exemple Médecins du Monde en France, qui ont apporté diverses ressources pour soutenir notamment la création de lieux dédiés aux livreurs. Et enfin, le dernier groupe rassemble des chercheurs intéressés par toutes ces questions, dont un certain nombre se trouvent dans cette salle. En France, on en compte plusieurs dizaines, travaillant pour des organisations universitaires, syndicales ou associatives. Si la question du statut juridique des livreurs a joué un rôle cohésif important pour faire advenir l'espace public oppositionnel avec des collectifs aux identités et aux intérêts spécifiques, d'autres questions, comme les rémunérations, les conditions d'exercice du travail ou encore la santé, ont pu jouer un rôle similaire. Pour se faire entendre, les livreurs ont alors mobilisé un répertoire d'actions collectives très variées. Tractage, grève avec la déconnexion volontaire de l'application, par exemple, appel au boycott, occupation ou sit-in devant les sièges sociaux des plateformes, manifestation ou flash mob dans l'espace public, constitution de caisses de solidarité ou encore blocage de restaurants. Pour s'organiser, les livreurs ont beaucoup mobilisé les réseaux sociaux et ils se sont appuyés sur les médias classiques pour accentuer la pression vis-à-vis des plateformes. Donc on voit qu'il y a à la fois des répertoires collectifs qui sont assez classiques dans les mobilisations syndicales ou les mobilisations collectives, mais il y a d'autres outils qui ont été vraiment développés à partir de la connaissance réelle du métier. Par exemple, quand il y avait des blocages de restaurants, c'était souvent des blocages de ce qu'on appelle les dark kitchens, des cuisines fantômes, qui ont été montées par les plateformes de manière à faire croire aux consommateurs qu'ils commandaient dans des restaurants authentiques, alors qu'en fait, ce sont des laboratoires qui ont été montés de toutes pièces dans le port de Gennevilliers ou à la porte de Saint-Ouen. Et donc, comme les livreurs connaissaient, puisqu'ils venaient retirer de la nourriture là-bas, ils ont été bloqués à la source, en fait. Donc ça, c'est vraiment spécifique à leur activité. De même, on peut noter une dernière forme de mobilisation moins fréquente. La création de coopératives comme alternative aux plateformes, phénomène facilité en Europe grâce au développement depuis 2016 d'une application numérique par l'association CopCycle. Il y a quelques années, une enquête avait ainsi recensé 22 scopes de livraison basés dans des villes de toute taille, Paris, Bordeaux, Toulouse, Rouen, certaines fondées par des coursiers syndiqués. Ici, il n'est plus seulement question de résistance plus ou moins ouverte au modèle des plateformes, puisqu'avec ces organisations de travail alternatives, on assiste à l'émergence de ce que j'appelle une réplique organisationnelle. Réplique organisationnelle, mais surtout une réplique oppositionnelle, pour compléter l'espace public oppositionnel de NICT. Cette réplique oppositionnelle vise à affirmer et à s'affirmer dans la pratique comme une force socio-économique et politique concurrente aux organisations capitalistes. C'est ce type de réplique oppositionnelle, on en trouve dans d'autres secteurs, notamment qui réfléchissent beaucoup en ce moment aux questions écologiques. Ce qui est un peu logique, étant donné que quand on ouvre un peu les yeux et qu'on ouvre un peu les oreilles, on se rend compte que l'histoire capitaliste n'est pas vraiment compatible avec l'histoire écologique de la planète. Preuve en ce moment, il me semble. Toutes ces formes d'action collective n'ont pas toujours été simples à faire tenir dans le temps, car des tensions plus ou moins vives ont émergé entre collectifs, selon les sujets et selon les moments, en raison des dynamiques de concurrence propres aux organisations syndicales et aux collectifs. Alors ça, ce sont des phénomènes qu'on connaît. Il y a les luttes pour s'assurer une position de porte-parole exemplaire et légitime, il y a des désaccords stratégiques ou des désaccords tactiques, etc. Toutefois, ces formes d'action collective ont permis d'aboutir à des mobilisations dans le champ judiciaire qui pourraient bien déstabiliser fortement les plateformes de livraison si elles connaissaient des rebondissements. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a une plateforme notamment qui a été condamnée il y a quelques mois maintenant par des femmes de ménage qui travaillaient via une plateforme et qui ont fait reconnaître notamment le rôle de la plateforme dans l'organisation du travail, et pas seulement comme intermédiaire entre une offre et une demande. Et donc ça, si ça pouvait faire jurisprudence, ça poserait sans doute beaucoup de problèmes aux plateformes, à tel point d'ailleurs que les plateformes commencent à réfléchir à des tactiques pour essayer de se prémunir contre potentiellement des condamnations. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est encore ouvert. Pour conclure, l'espace public bourgeois aura-t-il la peau de la subjectivité rebelle des galériens de l'asphalte ? On pourrait dire, l'espace public bourgeois aura-t-il la peau de la subjectivité rebelle des travailleurs et des travailleuses français ? Parce que je pense que ça va s'appliquer en partie à beaucoup d'entre nous très rapidement. On connaît les critiques adressées à Jürgen Habermas et à sa première version de l'espace public bourgeois. L'une d'elles a justement mené Oscar Nicht à proposer le concept d'espace public oppositionnel, de manière à rappeler que l'histoire mouvementée du processus de démocratisation ne saurait être saisie sans prendre en compte les humeurs populaires portées à la contestation politique plus ou moins ouverte. Esclaves, paysans, ouvriers, petits artisans, hommes ou femmes, oui, puisque les femmes aussi se mobilisaient, contrairement à ce que certains historiens ont pensé au départ, ont toujours, dans des proportions et selon des intensités variables, contribué à façonner leur propre histoire, quitte à affronter les effets du monopole de la violence légitime exercée par les fractions dominantes de la société. On peut suivre Nicht dans sa critique des vues historiographiques habermasiennes. Toutefois, un point mérite d'être gardé en tête qui a déjà été souligné ce matin. Ces analyses privilégient la question de la publicisation des débats fondés sur l'usage critique de la raison. Cette dimension délibérative rationnelle est difficile à considérer comme inutile à la démocratie, même lorsque seules certaines catégories sociales peuvent échanger des arguments à propos de la justesse des critères de la loi et peuvent y compris obtenir la modification de ces derniers. Or, avec le management algorithmique, les capitalistes de plateforme ont fait la démonstration que la délibération n'était pas nécessaire pour organiser des galériens éparpillés aux quatre vents de l'espace public urbain. Mieux, son absence, l'absence de délibération, est gage de renforcement des rapports de domination à travers l'autorité indiscutable du chiffre. Avec leur volonté d'aller plus loin dans ce sens, en plateformisant l'État, les propriétaires des plateformes, nourris au néolibéralisme tardif, offrent une technologie permettant aux gouvernements, tentés par l'instauration de régimes illibéraux, voire carrément autoritaires, de lutter contre la subjectivité et l'autonomie individuelle qu'elles permettent de déployer, mais aussi de lutter contre les élans démocratiques fondés sur l'autonomie collective. On peut alors se demander si les travailleurs de plateforme en général, et les livreurs en particulier, réussiront à subvertir un espace public bourgeois en voie de déliquescence. On peut penser que s'ils s'engagent dans une forme de résistance temporaire pour contester certaines modalités de fonctionnement des plateformes afin de les aménager à la marge, cette participation à l'espace public oppositionnel restera de peu d'effet, car le travail vivant ne peut pas émerger de ce type d'organisation du travail. En revanche, s'ils engagent leur subjectivité rebelle, d'abord sous la forme d'une créativité contestataire, puis d'une agressivité sublimée vers de véritables répliques oppositionnelles, alors peut-être seront-ils en mesure de proposer des solutions organisationnelles bâties sur des rapports de coopération davantage égalitaires et justes. Des solutions attentives aux dynamiques toujours changeantes de l'espace des mouvements sociaux. De la sorte, l'espace public pourrait conserver sa vitalité et ne pas voir mourir son potentiel oppositionnel, nécessaire pour affronter les immenses défis sociaux, politiques et écologiques auxquels notre société est actuellement confrontée. Je vous remercie pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.